Je sais pas si vous savez, mais très récemment est sortie la bande-annonce de Space Jam Nouvelle Ère, une sorte de suite au Space Jam de Joe Pitka, sorti en 96. Mais si, vous savez, Space Jam, le film avec Michael Jordan qui fait du basket avec les Looney Tunes.
Ouais, moi, à mon époque, on disait Space Jam.
Ah oui ?
Maintenant, je vois.
Space Jam, alors, si...
Non, non, mais je pense que tu as raison, Céleste.
Possiblement. Donc, c'était le film avec les Looney Tunes, avec Bugs Bunny, Daffy Duck, Grominet, etc. Un véritable film d'enfance pour certains, ovni filmique et bancal pour d'autres. Personnellement, il me laisse assez dubitatif, d'autant plus qu'il passe après Roger Rabbit, qui a un autre film mélangeant prise de vue réelle et animation à la main. Et la comparaison fait un peu mal à Space Jam. Parce que Roger Rabbit, c'est un peu un chef-d'œuvre. Enfin, selon moi, évidemment. Enfin, bref. Dans cette bande-annonce, qui transporte cette fois LeBron James, toujours en basketteur, aux côtés des célèbres personnages de cartoon, afin de sauver son fils. Je vous ai parlé des Tiny parce que c'est pas ce qui nous intéresse ici. Au bout d'un moment, on voit tout un tas de personnages issus de la culture populaire, notamment Freddy Krueger des Griffes de la Nuit, le Joker de Batman, le géant de fer du film éponyme, les personnages de l'histoire sans fin, de Matrix, des Goonies, Gremlins. Bref, un véritable gloobie-boulga de références plus ou moins subtiles, s'approchant un peu de l'overdose. Et ce n'est que la bande-annonce, alors je n'ose pas imaginer le film. On pourrait croire que la liste incommensurable de personnages et de licences utilisées est faite de façon aléatoire, et pourtant il y a un réel objectif. Toucher la corde sensible du spectateur en lui présentant des personnages qui lui sont familiers. Tout ça dans un environnement bien connu, celui des Looney Tunes. Tout ça n'est pas anodin, il vise à toucher la nostalgie du spectateur. Qu'est-ce que c'est ? Pourquoi beaucoup de films l'utilisent ? Peut-il être utilisé intelligemment ? C'est ce que l'on va voir aujourd'hui. Prenez votre ticket, moi Céleste du Guichet Choral vous propose une séance autour de la nostalgie. Alors, nostalgie, définition. Station de radio FM française créée en 83 à Lyon par Pierre Alberti... Attendez, non, c'est pas ça. Ah, voilà. Sentiment de regret d'une époque révolue. La nostalgie est, pour paraphraser la définition, une sorte de sentiment mélancolique nous rappelant notre passé, ou une époque antérieure que l'on n'a pas connue. Quand vous voyez ce type déclarer avec un dédaigneux « c'était mieux avant », c'est de la nostalgie. Quand vous entendez Charles Aznavour, Eddie Mitchell et Johnny Hallyday à la radio, c'est nostalgie.
Et sinon, pour le cinéma ?
C'est à peu près pareil. On joue sur la corde sensible du spectateur ou de la spectatrice en lui proposant un film ou une série qui serait en sorte une Madeleine de Proust pour elle ou pour lui. Avec cette démarche, les studios cherchent à capitaliser sur une licence, un nom ou une ambiance qui était plus commune 20 ans ou 30 ans auparavant. Il y a plusieurs moyens d'utiliser la nostalgie au cinéma, pour le meilleur comme pour le pire. Vous l'avez deviné, on passe aux exemples pratiques. La nostalgie au cinéma se manifeste sous différentes formes. Déjà sous forme de remake. Souvenez-vous de ma chronique sur le sujet il y a à peu près un mois. Remake signifie refaire. Cela veut dire qu'on remet un film, un vieux film, au goût du jour. Il y en a eu une pelletée, évidemment, je vous rappelle ma chronique. Mais ce sont bien plus des volontés de réalisateurs plutôt que celles des studios qui veulent capitaliser sur un nom bien connu. Enfin, presque tout le temps. Car oui, il y a une compagnie qui s'en tamponne de ça. Vous la connaissez, j'en ai déjà parlé. Les remakes Disney. On prend les mêmes et on recommence. C'est un peu ce qu'on peut dire de ces films. Vous prenez les films de votre enfance, genre Aladdin, Le Roi Lion, La Belle et la Bête, ou Dumbo si vous avez plus de 80 ans. Vous prenez des stars actuelles, ou non, genre Emma Watson, Will Smith, Tim Burton, Beyoncé, et vous copiez-collez le dessin animé, tout simplement. J'ai déjà dit ce que je pensais dans ma précédente chronique, spoiler, c'était pas du bien. Mais ici, c'est une autre facette qui nous intéresse, le fait d'utiliser des films particuliers. Parce que des Disney, il en existe un très grand nombre. 59, en comptant celui qui vient de sortir, et en ne prenant que les films labellisés classiques d'animation Disney. Sinon, il y en a à peu près 120. Pourtant, quand on regarde les films qui ont eu le droit à une version actualisée, qui sont au nombre de 16, dont 13 sortis ces 10 dernières années, il y en a presque autant qui sont actuellement en projet ou sur le point de sortir. Donc sur ces 30 films, 22 ne sont ni les suites ni les remakes de leurs remakes, carrément. Ce qui fait que sur 59 classiques d'animation Disney sortis, 22 ont eu droit ou auront le droit à un remake où le choix des films d'animation sélectionnés ne sont pas anodins. Aladdin, La Belle et la Bête, Le Livre de la Jungle, Dumbo, La Petite Sirène, tous ont fait les heures de gloire de l'entreprise aux grandes oreilles. Tous constituent un moment, un instant de la vie d'un enfant comme vous et moi qui a usé la VHS de leur classique Disney préféré. Et c'est cet instant que la compagnie cherche à reproduire en remakant leur plus grand succès. Ils incitent donc les adultes nés dans les années 70 et après, puisque la première VHS a été commercialisée en 80, à emmener leurs enfants profiter de ces films sur grand écran en voulant se baigner dans 1h30 à 2h de pure nostalgie. Et ça, c'est de la nostalgie facile. Les remakes n'ajoutent pas ou peu d'éléments à l'histoire ou à la mythologie des films originaux. C'est comme ressortir une vieille franchise de films pour en faire une suite, comme Jurassic World, suite de Jurassic Park. Même si j'avoue que je trouve le deuxième volet de Jurassic World, intitulé Fallen Kingdom, absolument génial. Les films Ghostbusters, qui ont eu un film sympatoche mais assez inutile en 2016, et un film qui aurait dû sortir cette année mais qu'on attend toujours, Space Jam, ou Space Jam, dont je vous ai parlé au début, ou même Star Wars, mais ça c'est un cas particulier que j'évoquerai un peu plus tard, car chaque chose en son temps. Donc oui, il y a des films, des franchises et des compagnies qui veulent capitaliser malhonnêtement sur notre chère enfance. Mais il y a des films qui savent le faire avec assez d'intérêt. C'est le cas de Spielberg, avec le film Ready Player One, sorti en 2018. Ready Player One, adapté du livre du même nom, se déroule en 2045 et nous raconte l'histoire de Wade Watts, un ado qui, comme un très grand nombre de personnes, se réfugie dans un monde en réalité virtuelle pour oublier les soucis du quotidien, donc du genre crise énergétique, guerre, pauvreté, joie. Ce monde virtuel se nomme l'Oasis et a été créé par un homme nommé James Halliday. Celui-ci, à sa mort, a promis de léguer l'intégralité de ses actions ainsi que l'Oasis à la personne qui retrouvera trois clés au terme de trois épreuves disséminées dans le monde virtuel. Le scénario est assez classique, hein, il s'agit d'une quête en trois étapes, tout ce qu'il y a de plus banal. Sauf que pour retrouver ces trois clés, les personnes doivent plonger dans les souvenirs et la jeunesse du concepteur. La nostalgie est ici un point central du film, puisque c'est ce qu'expérimentent les personnages, à fouiller parmi l'enfance d'Halliday qui devait avoir une enfance autour, aux alentours des années 80. L'esthétique du film, les références et les musiques sont donc empreintes de ces années-là. La nostalgie se transparaît dans tous les aspects du film, jusque dans sa réalisation, Steven Spielberg étant lui-même un grand fan de culture populaire, surtout des années 80. Cela a d'ailleurs été critiqué. L'avalanche de références culturelles, cachées ou non, ont été vues surtout comme une envie d'amener les gens au cinéma, juste pour voir les personnages cachés. Personnellement, je comprends l'intégration de ces références, là où c'est plus nébuleux dans d'autres films. Surtout quand on considère l'environnement du film. Il s'agit d'un monde virtuel dans lequel vont les gens pour s'échapper du quotidien angoissant, donc évidemment ils vont se réfugier dans quelque chose de rassurant, quelque chose qui les conforte, comme un souvenir de leur enfance ou un film avec lequel ils ont grandi. C'est pour ça qu'on peut voir dans le film la DeLorean de Retour vers le futur, des costumes iconiques ou même le géant de fer. L'esthétique des années 80-90 se retrouve aussi dans des séries Netflix comme Stranger Things ou des films comme ça. Ce qui est intéressant à propos de ce dernier, c'est que l'action du livre se déroule dans les années 50. Et le réalisateur et les scénaristes ont voulu transposer ça dans les années 80, comme Stranger Things qui se déroule dans les années 80, car cela parlait davantage au public actuel. Parfois, la nostalgie permet d'ajouter une sorte d'empathie envers les personnages, puisque l'environnement familier, donc celui de notre enfance, pas la mienne mais ceux des personnes nées dans les années 70-80, peut jouer sur la vision qu'on a de ce qu'il se passe. Évidemment, cela ne fonctionne que si on est né dans la décennie des peintes. Je ne dis pas que les personnes comme moi, donc nées dans les années 2000, ne peuvent pas apprécier, mais l'impact sera moins puissant. Ou même, cela peut faire naître chez les générations futures une sorte de nostalgie pour l'ancien temps. Exactement le sujet de notre dernière partie, le 7e volet de la saga Star Wars intitulé « Le réveil de la Force ». comme l'indique son chiffre, Star Wars 7 est une suite, celle de deux trilogies, l'une initiée en 77 et l'autre en 99. La première s'est terminée en 84 et la deuxième en 2005. C'est donc deux générations qui ont été marquées par Star Wars. Lorsque Lucasfilm, désormais possédé par Disney, car le monde est petit, a décidé de réaliser une troisième série de films, il y a eu les dubitatifs, qui ne voulaient pas voir Disney capitaliser encore sur une franchise avec succès qui a eu ses heures de gloire 15 et 40 ans auparavant. Il y a eu aussi les enthousiastes, qui voulaient revoir cet univers sur grand écran, et les nouveaux comme moi qui avaient hâte d'enfin pouvoir voir la saga au cinéma. Cette troisième trilogie se déroule donc 30 ans après les événements de la deuxième trilogie, donc les épisodes 4, 5 et 6, à savoir la défaite du grand méchant Empire. On suit donc une nouvelle génération de héros, exit les Luke Skywalker, les Han Solo et les Chewbacca qui tiennent plus de la légende. Bonjour Finn et Rey, deux personnes assez lambda mais qui vont réussir à faire de grandes choses. Beaucoup vous diront que ce film est un remake, oui encore ce mot, de l'épisode 4. En effet, le film commence sur une planète déserte avec un orphelin qui découvre un droïde qui va l'amener vers une figure du passé qui se trouve être un grand général. Le droïde contient des plans, blablabla, il y a une grosse base qui peut détruire des planètes, blablabla, il y a un méchant avec un casque, blablabla, sabre laser. Oui, il y a des similitudes et en même temps, le Star Wars de 77 n'était pas non plus très original. Il reprenait beaucoup d'éléments du livre de Joseph Campbell, Le héros mille visages, ainsi que du film japonais La forteresse cachée d'Akira Kurosawa. De plus, la réalisation de J.J. Abrams est plus inspirée que celle de George Lucas, offrant des plans d'ensemble magnifiques et une action un peu plus rythmée, aidée, il est vrai, par des effets spéciaux qui se permettent d'être un peu plus actuels que ceux du film de 77. Mais ici, le but n'est pas de défendre Star Wars 7, même si j'avoue que je pourrais le faire pendant des heures. Non. Ici, on parle de nostalgie. C'est le sujet de la chronique. Certains ont surnommé la troisième trilogie Star Wars de « nostalgie », car elle semblait beaucoup utilisée de moments ou de personnages des films précédents, juste pour brosser le spectateur dans le sens du poil. Ce qui a fini par arriver avec l'épisode 9, tant les fans, entre guillemets, ont râlé avec le 7 et le 8. Et je suis pas d'accord avec ce terme de nostalgie. Star Wars 7 a le génie de parler des répercussions, de l'après-bataille. La deuxième trilogie, sortie étant un prequel, à savoir qu'elle contenait les événements se déroulant avant la trilogie originale, c'était celle des films sortis entre 77 et 84, c'est la première fois que l'on pouvait vraiment observer les conséquences de la guerre contre l'Empire des films 4, 5 et 6, donc ceux sortis originellement. Nous avons donc toute une génération de personnages qui ont grandi avec les histoires sur Luke Skywalker, Han Solo, Chewbacca, les faisant devenir des personnages de légende bien plus que des réelles personnes. Donc ces personnes ont pu devenir des modèles pour certains. Mais ce n'est pas tout. Là où les héros sont devenus des figures importantes de l'histoire, les vilains aussi. Comme partout, il y a eu des fanatiques, des personnes qui ont été inspirées par le moment et les idées de l'Empire déchu, à la manière des néo-nazis, là où l'Empire était le reflet de l'Allemagne des années 40. Et c'est ainsi que des cendres de l'Empire est né le Premier Ordre, une sorte de groupuscule extrémiste qui a à sa tête un descendant de Dark Vador, donc qui était la figure de proue de l'Empire, avec un grand E. Des deux côtés, on a alors des personnages inspirés par le passé, bien plus que nostalgiques d'une époque révolue. Cette nouvelle trilogie n'était pas là pour parler aux fans des deux anciennes trilogies, celles qui ont forgé la légende, mais bien plus pour accueillir de nouveaux adeptes, entre guillemets. Des enfants, ados ou adultes, qui ont grandi avec les histoires qu'on leur a racontées à propos des premiers films. De Dark Vador, d'Obi-Wan Kenobi, des enfants comme moi qui voulaient avoir leur propre aventure. C'est ça que Star Wars 7 raconte, des personnages qui veulent vivre l'aventure comptée dans les légendes, des personnages qui veulent faire partie d'un mythe. Star Wars 7 est un cas particulier de nostalgie dans le sens où le sujet principal n'est pas la nostalgie. Les seuls qui rêvent d'une époque révolue sont en réalité le Premier Ordre, donc les grands méchants, qui veulent voir l'Empire renaître. La nostalgie au cinéma est quelque chose de très délicat. Dans le sens où il faut savoir la manipuler sans tomber dans une bête accumulation de références pour plaire aux fans de choses qu'il y a d'il y a 20 ou 30 ans. Il est plus intéressant de la traiter sous forme d'ambiance plutôt que frontalement, un peu comme dans ça. Voir prendre à contre-pied l'idée avoir un ou des antagonistes nostalgiques bloqués dans le passé et des protagonistes qui veulent forger leur propre histoire. Je vous laisse avec un son nostalgique entre guillemets, avec des synthétiseurs, donc bien années 80-90, et qui est issu d'un film qui me fait le même effet qu'un bon plaid et un chocolat chaud, Eye to Eye de Tevin Campbell et Rosie Gaines, tiré du film Dingo et Max. Soyez toujours critiques devant des films et voyez-en pendant que le confinement vous avez le temps. Prenez soin de vous évidemment. Salut !